Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM, 11h passées de 2 minutes, de 3 minutes. On n'est pas encore raccord sur la bulle et le studio. Et une première fois, une première chronique reconnaissante en direct avec Lydie. Bonjour Lydie.
Bonjour Margot.
Alors, c'est notre petite chronique reconnaissante du mois de mars, tous les bons gestes à adopter pour tout déchirer au jardin. Et on va parler de semences, de récoltes, de plantations, de livres, tout ce qui est abordé généralement dans la chronique, reconnaissante. Et on commence donc avec les semences. Ah non, vous allez faire un petit point d'abord, un petit point Grainothèque, c'est
oui,
ça?
Oui, volontiers Margot. La Grainothèque se trouve dans le hall de la mairie de Saint-Pierre-du-Mont. Cette Grainothèque reconnaissante fonctionne par le biais de dons. Donc vous pouvez aller chercher vos graines. En ce moment, on a des tomates, on a des courges, on a des fleurs, on a des mellifères. On a beaucoup de choses à semer, donc c'est le bon moment, allez-y. Pardon ?
On peut en amener aussi.
Ah, mais justement, ça fonctionne par le biais de dons, donc on accepte toutes les graines. Et donc voilà, c'est basé sur un échange finalement. Donc ensuite, nous avons aussi la Grainothèque postale pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Elle est renouvelée comme l'année dernière. Et donc, c'est par le biais de l'association donc, Les Jardins Reconnaissants. Il y a 4 variétés de tomates, dont des cerises, hein, des courges, des fleurs, des blettes lucullus. Nouveauté cette année du Slaoui, j'en dis pas plus. Okay. Voilà, on vous remplit l'enveloppe pour 1,20€, puisque ce sont les frais de traitement postaux, et vous recevez les graines directement chez vous.
Magnifique.
Voilà.
Donc là, on envoie un petit message au jardin reconnaissant pour dire « moi, c'est ça que je veux ».
Oui.
Alors,
c'est un petit package. Je pense que c'est par le biais de Hello Asso, si okay. Mes souvenirs sont bons.
Ah oui, là,
et voilà. Et donc, vous recevez des graines. Alors, les variétés de tomates, c'est un petit peu la surprise. Mais sûr, il y a 2 variétés de tomates cerises. Donc, pour l'apéro, ça va être sympa.
Très bien. Donc, on attaque avec nos semences du mois de mars, Lydie ?
Oui, alors on va attaquer un petit peu chaud ce mois de mars, puisque le mois de mars, avec en général à partir du 19 mars, qui est la Saint-Joseph, traditionnellement, c'est le début des 40e rugissants du jardinage.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah, ben c'est, ça y est, là, c'est à fond, à fond, à fond. Donc, à chaud, on va semer les aubergines, les concombres, les melons, piments et poivrons, en serre froide, les tomates, les choux, les laitues, toutes les salades. Toujours en serre froide, eh bien, c'est le début des semis des aromatiques. Donc le basilic, l'aneth, ciboulette, estragon, le thym, le cerfeuil et la coriandre. En pleine terre, eh bien, en pleine terre, les mesclins. Alors des fois, on a des petits fonds de sachets de salade. On va un petit peu tous les mélanger et on va faire nous-mêmes notre propre mesclin. On va semer la roquette aussi. On a ensuite, par tradition, puisqu'on a un joli proverbe qui dit « Veux-tu oignons, seigle et petits pois, sème-les à la Saint-Benoît ». Donc ça, c'est le 21 mars. Donc le 21 mars, c'est la dernière fenêtre pour semer les petits pois.
Okay.
Ensuite, on va semer aussi les radis. En épinard, j'aime bien la variété Matador, qui est une variété pour les journées courtes. Et les carottes, alors beaucoup de personnes ont des soucis quand ils sèment leurs carottes, puisque souvent il n'y a pas trop de naissance, c'est-à-dire les semis restent un petit peu, semis. Voilà, ça ne germe pas. Eh bien si, ça germe, simplement on a les fourmis, et les fourmis adorent les graines de carottes. Donc mélangez vos graines de carottes avec du poivre noir avant de les semer, ça vous permettra en plus de faire des semis un petit peu plus espacés, plus léger, et vous verrez vos carottes naître. Et ensuite, on va semer aussi toutes les fleurs, donc les bleuets, les coquelicots, les nigelles, l'avataire, le calendula qu'on appelle aussi le souci, les tagettes, qui sont des auxiliaires précieux au niveau du jardin.
Magnifique. Et après les semis, on va pouvoir passer aux plantations.
Bien sûr, on va passer aux plantations. Donc le 19, par tradition, on débute les pommes de terre que l'on va mettre en pleine terre. Et on va débuter surtout par les pommes de terre primeur. Donc en primeur, on va voir la amandine, Belle de Fontenay, Apollo. Et moi, j'ai une petite préférence pour les Artémis, qu'on trouve aussi sous le nom de Aliénor.
Mmh.
Donc, on les a préalablement mises dans des alvéoles, dans un endroit frais, mais ensoleillé. Donc, on a des pommes de terre toutes petites, mais avec des germes bien verts. Donc, ils sont trapus et quand on va les mettre en pleine terre, quand on va les mettre en pleine terre, les germes ne vont pas se casser. Ils vont être très résistants. Voilà. Donc, dès que l'on voit les premières feuilles sur ces pommes de terre, dès que ça va sortir des 20 cm de terre, eh bien, on va les recouvrir de feuilles, de foin, etc., au fur et à mesure que la tige va s'allonger. Et par contre, alors le petit test, c'est que dès qu'on voit les premières feuilles, on sait que 90 jours plus tard, on va pouvoir les cuisiner et on va pouvoir les savourer.
C'est un bon chronomètre.
Voilà, c'est le bon chronomètre. Ensuite, on va planter les fraisiers, l'ail, les oignons, les échalotes, et puis surtout les œilletons d'artichaut qu'on va détacher du pied-mère. Et c'est le bon moment aussi pour les griffes d'asperges.
Très bien. Et donc, après avoir semé, après avoir planté, on peut récolter.
Enfin, on va récolter surtout ce qu'on a déjà mis en place à l'automne. Donc, on va récolter évidemment les carottes d'hiver, les salsifis, les scorsonaires, les poireaux, les salades d'hiver. Alors, il faut bien profiter des poireaux parce qu'après, ils vont monter à graines. On va arracher aussi les topinambours pour les déguster. Et on va en laisser quelques-uns, mais bon, ça, il en reste toujours, qui produiront pour l'année prochaine.
Ça, c'est pratique avec le topinambour.
Oui, hyper pratique. Ensuite, on a de la mâche aussi à récolter qui va être délicieuse avec notre betterave rouge, puisque c'est aussi le bon moment pour récolter encore la betterave rouge. Et petite astuce, la betterave rouge, on peut aussi consommer les jolies petites feuilles du cœur qui sont délicieuses en salade. Et puis, on a aussi, bien évidemment, les blettes, puisque moi, je suis très fan de blettes.
Alors, on passe à une partie un peu technique maintenant, Lydie, diviser et bouturer. Ça, c'est vraiment pour les pros.
Non, c'est pas si technique que ça. C'est tout facile. Bah, la ciboulette qui pointe le bout de son nez, par exemple, au jardin, on la coupe en deux, en trois. C'est pas compliqué. On en profite pour en donner un petit peu aux voisins ou aux copines. On divise ensuite les framboisiers et on va planter les boutures racinées puisqu'on aura fait quelques boutures de framboisiers. C'est la dernière ligne droite aussi pour tailler et bouturer la vigne et les figuiers. Et on va aussi bouturer le chou de Benton. Alors le chou de Benton, c'est ce qu'on appelle le chou perpétuel. Il n'est pas si perpétuel que ça, puisqu'en général, tous les 3 ans, il faut quand même le renouveler. Il se renouvelle en bouture. Donc, on prélève des jeunes pousses de 7 à 8 cm sur son tronc. On place ça dans des godets bien arrosés et il se bouture tellement facilement que 100% des gagnants ont tenté leur chance.
Magnifique.
Voilà. Donc, il reste 3 ans en place et on le renouvelle.
Bon, ben ça, c'est de bonnes nouvelles, puisque si c'est des boutures faciles, c'est à la portée de toutes et tous.
C'est à la portée de tout le monde, bien sûr.
Alors, ensuite, dans les classiques, les bons gestes, la taille et le soin, on va laisser parler l'experte que vous êtes, ma chère Lydie.
Pas vraiment experte, parce que bon, on fait des bêtises, hein, même après plus de 25 ans de jardinage.
On peut être expert et faire des bêtises,
On fait des bêtises. Hein. Donc voilà, alors les auditeurs ont rangé leurs freins tout l'hiver, s'ils m'ont bien écouté. Donc ils n'ont rien touché au jardin. Mais là, allez, go, on se lâche. C'est le début du nettoyage de printemps des massifs. On va couper toutes les branches desséchées, toutes les branches des vivaces non persistantes. On va tailler les rosiers et tant qu'on est à tailler les rosiers, eh bien on va en profiter pour les bouturer. Alors évidemment, on va réussir les boutures, pas toutes, mais une bonne partie. Et ça va nous permettre de pouvoir en donner soit pareil à son entourage, soit tout simplement à l'occasion des troc-plantes.
C'est vrai.
Donc, mettez aussi un petit peu de compost sous les paillis car il est dégradé par les UV. Donc, il faut bien le cacher, le compost. Par contre, le fumier bien décomposé, on va pouvoir, lui, le mettre sur le paillis. En zone urbaine, alors on a un petit peu de soucis des fois avec le fumier. Donc, on trouve en jardinerie du fumier desséché en granulé. C'est en sac de 10 kg, c'est pas hyper lourd, ça prend pas énormément de place. Et c'est surtout très, très pratique.
Magnifique. Et là, si on vient conclure avec un geste pour la faune.
Alors là, le geste. Alors, si vous n'avez pas pris la bonne résolution au début de cette année, faites-le maintenant. Eh bien, voilà, c'est le moment d'arrêter totalement la bouillie bordelaise.
Ah,
Voilà, donc ça tue les vers de terre, ça on le savait, mais surtout ça tue tous les micro-organismes qui sont nécessaires. La bouillie bordelaise, elle a aussi malheureusement le défaut de s'accumuler dans les sols et elle empêche les végétaux d'absorber certains nutriments qui leur sont absolument précieux. Et donc en sol vivant, puisque nous jardinons un sol vivant, eh bien on s'en passe très très bien. Et en ce qui me concerne, je ne m'en sers absolument pas.
Et donc, on peut très bien jardiner sans bouillie
Ah
bordelaise.
oui, moi je suis une fervente adepte, outre la procrastination au jardin et la fainéantise, de ne surtout pas se servir de bouillie bordelaise. Voilà. Alors c'est aussi le moment pour réaliser un abri ou un nichoir à chauve-souris, parce que c'est un gros prédateur à moustiques. Et les moustiques, malheureusement, on connaît bien.
Prolifère un petit
Voilà.
peu, oui, chez nous.
Ça prolifère bien. Donc, vous allez sur Internet pour jeter un œil sur les dimensions, l'exposition, la hauteur pour l'installer, de manière à ce que ce soit efficace et que ce soit fréquenté et que ce soit squatté par les chauves-souris. On va aussi lutter contre les rats toupiés et les campagnols. En ce qui me concerne, je n'en ai pas. Je suis assez satisfaite. J'ai d'autres petits auxiliaires. Alors, vous avez la buse, le renard et la belette qui sont des prédateurs naturels des rats taupiers. En ville, on a un peu de mal avec ça. Donc, en zone urbaine, on fera une décoction de feuilles de sureau. Donc, 100 grammes de feuilles dans un litre d'eau. On fait bouillir pendant 10 minutes. Et quand c'est froid, on pulvérise sur les zones à protéger, pures, sans dilution. Donc, bien évidemment, comme toutes les pulvérisations, il faudra renouveler régulièrement. Et apparemment, ça reste quand même un répulsif qui fonctionne plutôt bien. Donc, on ne les tue pas, on les éloigne juste. Et puis, donc, ça, c'était le geste pour la faune. Mais le petit geste pour vous, jardinier ou jardinière, passez du temps en plein air, allez dans la forêt, reconnectez-vous avec la nature en respectant, bien évidemment, la limite des 18 heures où on est de nouveau confiné.
Ok. On note bien. Mais c'est vrai qu'avec le printemps, ça va être assez agréable d'aller se balader en forêt. Et si on n'a pas l'occasion d'aller en forêt, s'il ne fait pas beau, on pourra passer du temps avec un petit conseil lecture que vous allez nous prodiguer, Lydie.
Oui, ben c'est-à-dire une fois que nous nous sommes baladés, par exemple, au parc Jean Rameau ou sur les berges, eh bien, 18h arrivant, on va se pencher peut-être sur les livres. Donc, aux éditions du Rouergue, je vous ai sélectionné un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre sur l'espèce légumière qui fait partie des plus anciennes. Et son titre, Du faillot au mange-tout, l'histoire du haricot sans en perdre le fil, est déjà tout un programme. Donc voilà, qu'il soit vert, extra fin, beurre, grain, mange-tout ou magique, c'est un très beau voyage sur l'histoire des origines jusqu'à l'assiette. Je l'ai acheté chez un vrai libraire à Mont-de-Marsan. Donc mon conseil, vous avez mis de l'éthique dans vos graines, puisque vous allez à la grainothèque et vous récupérez vos propres graines ou vous vous adressez à un semencier français. Donc, eh bien, puisque votre éthique au jardin est quasiment parfaite, mettez-en dans vos achats et privilégiez absolument la proximité.
On ne peut qu'encourager ce conseil.
Voilà.
Le petit mot de la fin, avant qu'on passe à la recette, ou d'abord la recette ? D'abord la recette, alors la traditionnelle recette de notre chronique mensuelle.
Alors la recette, j'ai des dosages en millilitres. Alors les millilitres, c'est pas toujours très pratique. Alors certaines balances électroniques font la conversion de manière absolument magique, mais tout le monde n'a pas ce type de balance. Donc la petite astuce zéro déchet récup, vous récupérez un biberon, c'est gradué en millilitres, c'est absolument magique. Donc voilà, donc je vous ai concocté un risotto aux carottes et aux asperges, puisque j'ai des asperges dans mon jardin. Et là,
chanceuse.
Hier, j'ai fait un risotto avec les deux premières asperges du jardin. Donc voilà, c'est pour deux personnes. La préparation est rapide en 10 minutes. Passage au jardin non compris, bien évidemment. Et en cuisson, en 15 à 18 minutes à feu vif, c'est terminé.
Efficace.
Donc voilà, c'est très efficace. Donc vous avez besoin de 80 g de riz arborio bio ou à défaut du carnaroli, deux échalotes finement émincées, 40 ml de vin blanc sec, une carotte émincée, on va dire 60 g, deux asperges pelées coupées en quatre dans la longueur et finement émincées, pareil 60 g, 400 ml de bouillon de poule ou de légumes salés et bouillants, très important bouillant, une cuillère à café bombée de crème fraîche épaisse, de la bonne, hein, pas de la léger, ça ne sert à rien. Vous pouvez la prendre chez Erika à la part des colibris en vrac, une cuillère à café bien bombée de parmesan râpé. Donc ça, c'est pour les ingrédients. Alors, à feu vif, avec une cuillère à café d'huile d'olive, on fait blondir le riz et les échalotes. On mouille avec le vin blanc sec. On remue jusqu'à absorption complète. Ensuite, on va ajouter carottes, asperges et le bouillon bien bouillant. petite astuce de feignasse. Moi, je vais choquer les puristes. Je mets le bouillon en une seule fois. Je ne le rajoute pas louche à louche. Voilà, c'est le faux pas culinaire. On remue bien et quand tout le liquide est bien absorbé, on baisse le feu et on ajoute la crème fraîche et le parmesan. Hors du feu. On remue pour incorporer ces deux derniers ingrédients. On rectifie l'assaisonnement et on peut servir. Alors moi, j'aime beaucoup l'associer avec un pavé de truite que je vais cuire à l'unilatéral. La truite, je la prends chez Olivier Trucheté à l'atelier de la truite rue Cazaillas. Voilà, moi, j'adore parce que l'élevage est petit. Il n'est pas en intensif, il est en extensif. Et il fait du très bon travail sur la totalité de ses produits. Donc voilà, après, pour les gens qui ne consomment pas de poisson, moi j'aime beaucoup le tofu grillé avec des graines, c'est-à-dire l'associer avec du tournesol, enfin les cubes de tofu. J'associe ça avec du tournesol, du sésame et du lin et c'est absolument délicieux.
Magnifique pour petite recette rapide et très très efficace. C'est maintenant. Le mot de la fin, Lydie.
Oui, alors le mot de la fin, c'est un petit proverbe qui nous dit « En mars, quand le maire l'a sifflé, l'hiver s'en est allé ». Donc voilà, donc, j'espère que l'hiver sera derrière nous très rapidement et que la force de la nature soit avec vous.
Merci beaucoup, Lydie.